Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, avec aujourd'hui François Monboise, président de la FEVAD, Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte. Jean-Claude
Bonjour, bonjour Valérie.
Bonjour. Jean-Claude Bonjour, avocat, vice-président de France Amérique, et Mathieu Alterman, journaliste.
Bonjour.
Et on attend votre livre en juin prochain,
oui,
sur le producteur de légendes Norbert Saada. On va parler de la tribune des militaires. Alors une tribune qui serait passée relativement inaperçue si Valeurs Actuelles ne l'avait pas publiée. Surtout s'il n'y avait pas eu cette réaction de la ministre des Armées. On va y revenir dans un instant. On déconfine, mais on a 6000 personnes qui sont aujourd'hui en réanimation. Et puis Europe Écologie versus les boomers. Encore une polémique, les vers les plus bêtes du monde, 0826 300 300. Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention dans l'actualité. Jean-Claude, c'est un hommage
Oui, hommage à Albert Elbaz, ouais. 59 ans, jeune, qui ouais. vient de décéder du Covid, et ça ouais. fait lien avec les sujets d'après. C'est la preuve qu'on peut mourir jeune du Covid. Ouais. Et puis, c'est aussi un hommage à ce grand de la mode, à la fois parce qu'il l'inspirait, par sa créativité, mais également parce que le milieu de la mode reste une vraie marque de notre culture française. Et c'est important de le rappeler au moment où on est dans véritablement la sinistrose, où on dit qu'on perd confiance en soi, où le sentiment de fierté nationale n'existe plus. Ben, y a de très belles choses que l'on fait. Donc c'est vrai que ce départ d'Albert Elbaz nous touche beaucoup, après celui de Kenzo, ouais. Cette année, toujours du Covid. Donc voilà, je voulais... Vous savez, la mort, parfois, on a tendance à pleurer. On profite, je ne sais pas si c'est un coup de gueule ou un coup de cœur, ouais. de dire ben, finalement, c'est une tranche de vie qui s'en va. Il restera un peu avec nous. Sa flamboyance va rester. Le fait qu'il ait fait vivre un certain nombre de maisons, de grandes maisons de mode, qui font... Et je sais que Jacques Miard est diplomate, donc on sait à quel point l'identité française passe aussi par la mode à l'étranger. Et ça aussi, c'est la grandeur de la France, ne l'oublions pas. Ce sont ces hommes et ces femmes qui font la grandeur de notre pays.
Ouais, et qui a été assez maltraité, hein, Albert Elbaz.
Absolument.
Qui a été viré.
Oui, alors là, je vais vous dire, il faut prendre ouais. ça. Vous savez, en ouais. tant qu'avocat, moi, je le vois, ouais. j'ai des dirigeants aussi, petits ou grands, dans mes clients. Vous savez, quand on est oui. dirigeant, tôt ou tard, on est débarqué. Je dis c'est souvent, vrai. C'est alors après, il y a l'art et la manière. Il faut psychologiquement se préparer. Je dis souvent à mes oui. clients, vous savez, à un moment donné, vous serez dirigeant. La question, c'est
absolument.
Combien est-ce qu'on met sur la table.
Ouais. Non, mais on peut rajouter quand même que le milieu de la mode est un milieu très très particulier. Et Albert Elbaz était certainement un type d'une qualité humaine remarquable,
oui,
assez rare
vrai.
Dans le domaine.
Mais...
Et malheureusement, les gens qui sont de vrais gentils dans ce domaine-là, souvent, je pense à Christian Lacroix, il y a 25
c'est
ans.
C'est vrai, vous avez raison.
Voilà.
Vrai, mais vous savez,
vrai.
Moi, je vois beaucoup de gens, y compris dans tous les milieux, à tous les niveaux sociaux. Psychologiquement, on n'est jamais bien traité, malheureusement.
Vrai,
vous savez, que vous soyez ouvrier
viré, ouais.
ou PDG, je me souviens de Michel Bon qui avait expliqué qu'il avait appris dans sa voiture, en allant au bureau avec son chauffeur, qu'il avait été viré dans la nuit. On ne l'avait même pas prévenu. Ou tel ministre qui était, c'est Fleur Pellerin, qui disait qu'elle a appris à l'Assemblée qu'elle n'était plus reconduite. On lui avait même pas passé un petit coup de fil. Psychologiquement, c'est toujours très dur. Voilà.
Ouais, absolument.
Jean-Claude a raison de souligner la valeur et la puissance, justement, de tous ces créateurs de la mode. Il le fait d'autant plus, il a d'autant plus raison qu'aujourd'hui, il y a d'autres sites tels que Milan qui nous taillent des croupières. Donc, et c'est pour ça que je porte une cravate, moi. Vous savez pourquoi ? Parce que je soutiens l'industrie de la cravate, qui est une industrie proprement française, et les Américains, en changeant la mode, eh ben, ils flinguent l'industrie française.
Nous sommes deux,
voilà,
nous sommes deux, Jacques.
Shame on you.
Très bien.
Bravo.
Shame on you, Mathieu Alterman.
Mais j'adore la cravate et je suis pro-cravate voilà. également.
François Monboise est chez lui, donc il n'est pas sans cravate. Voilà.
Ça peut arriver.
Ça peut arriver aussi. François Monboise, vous vouliez rendre hommage aussi à quelqu'un, à Stéphanie.
Oui, parce que les journaux, et je trouve que c'est une très bonne idée, ont publié le visage, le portrait de cette dame qui a été assassinée. Et je trouve ça très bien parce qu'on vivait avec, enfin moi en tout cas, l'image d'une policière assassinée.
Ouais.
Et donc j'imaginais plutôt une jeune femme avec un pistolet, un uniforme, qui court dans la rue, enfin qui est active. Et là, on voit une dame comme on en voit quand on va à la mairie changer son carte d'identité ou à la poste ou... Enfin, une dame qui est derrière le guichet et qui est au service du public. une dame normale, quoi. Et je trouve que ça rend l'horreur de ce qui s'est passé encore pire. C'est pas un soldat, c'était une dame absolument normale qui a été assassinée.
Oui. C'est effectivement, on imaginait une policière en faction ou voilà. Quelqu'un en uniforme, et c'était ça ne retire ni n'ajoute rien à l'horreur de ce qui s'est passé.
C'est une chose importante, c'est que beaucoup de gens comprenaient pas pourquoi la personne, la victime, n'était pas armée. On comprend pourquoi maintenant, sauf qu'elle faisait partie du cadre administratif,
du personnel,
bien sûr.
Administratif, exactement. Absolument. Vous avez raison, Mathieu. C'est un coup de gueule.
Oui, alors ça m'a fait rire quand je l'ai lu, mais je vais vous le dire. En fait, le média financier Bloomberg a publié son paramètre mensuel Covid résilience. En fait, c'est les mesures des meilleurs et pires pays de la planète en ces temps de pandémie. Alors, ils croisent des données comme la circulation du virus, la gravité de la circulation, et ils croisent également avec la qualité de vie en fonction des mesures adoptées sur les restrictions. Et sur les 53 pays, la France est 42e, juste après le Bangladesh et juste avant l'Irak. Alors, on se rassure, le Brésil, ils sont derniers, mais c'est quand même un classement qui fait peur parce qu'il est suivi dans le monde entier et qui installe la France clairement en deuxième, troisième, quatrième division. Parce que moi, j'ai plein de gens autour de moi qui disent, c'est pas qu'on est contre la France, c'est pas qu'il n'y a aucune haine, tout ça, mais on ne comprend pas ce qui se passe chez vous. Une interrogation. Et ce classement vient corroborer cette interrogation. Comment la France peut être 42e, quoi.
Oui. Une remarque, François, ou sur ce classement?
Je sais pas, on en parlera un peu plus
oui,
tard.
Oui, on en parlera tout à l'heure.
Puis tout dépend de la manière, quels sont les critères qui ont été retenus pour ce classement.
Les critères sont les mêmes pour tous les pays.
Après on peut avoir des critères qui nous désavantagent. Cependant, là où il y a un vrai signal d'alarme, nous sommes un grand pays, nous sommes censés être un grand pays industriel, nous sommes au nombre des 10 plus grands, les premières puissances mondiales, 10 premières puissances mondiales. Nous avons une administration qui est censée être formée, nous avons des militaires qui sont formés, des fonctionnaires qui sont formés, des experts. On est surpris de ce que nous n'ayons pas en place des process qui nous permettent, et on l'a bien vu, qui nous permettent d'anticiper, de gérer, d'accompagner des situations
absolument.
De crise.
Et pourquoi qu'on a le personnel, mais le logiciel, il date de 1978.
Bon, voilà. C'est là où on est sidéré.
Oui, voilà. Jacques Miard.
Oui, bon, je ne vais pas commenter ce qui vient d'être dit. Je ne suis pas compétent sur tout, et j'avoue ne pas l'être, toujours parfois en matière d'Internet. Je voudrais pousser un coup de gueule, effectivement, rejoignant d'ailleurs ce que vient de dire François, parce que je suis assez sidéré de voir qu'à chaque fois qu'il y a un assassinat islamiste, on dérive légèrement les médias, dire « Ah, mais il a un problème psychiatrique, etc. » Non, on a vu ça sur l'affaire Halimi, on voit ça sur la personne qui a été, justement Stéphanie, qui a été assassinée à Rambouillet. Il faut cesser ce genre de choses. Est-ce que la folie est une excuse ou est-ce qu'elle ne fait que corroborer que cette idéologie mortifère islamiste est quelque chose qui est dangereux? Et donc, à force de nous dire, et on a entendu ça sur un certain nombre de médias, qu'il y avait un problème ci, etc., non. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que toutes ces personnes qui sont dans cette secte ont des problèmes psy. Je m'en suis ouvert un jour avec François Moulin en tête-à-tête.
François Moulin,
le procureur général, lorsqu'il était chargé justement de la lutte antiterroriste, et disait très clairement qu'effectivement, ils avaient tous quelque chose. Mais ça n'excuse pas la xénophobie de cette idéologie mortifère. Donc, il y a un moment, il faut arrêter. Ce n'est pas parce que, au regard de nos critères, on pense qu'ils sont fous. Je suis désolé, c'est une folie d'idéologie d'une secte. Et c'est ça sur quoi nous devons insister.
Alors, on va y revenir, on va en reparler dans un instant. On l'a évoqué hier, mais on va quand même poursuivre ce débat parce qu'il y a effectivement beaucoup d'émotions, beaucoup d'incompréhensions, beaucoup de choses fausses également qui sont dites. On y revient dans un instant.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
On est ensemble pour le 10h midi pour commenter l'actualité avec François Monboise, président de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte, Jean-Claude Beaujour, avocat, vice-président de France Amérique, et Mathieu Alterman, journaliste, la tribune des militaires qui fait polémique, qui fait débat. La ministre des Armées a annoncé des sanctions. Emmanuel Macron, lui, donc, a esquissé hier devant des enfants son plan de déconfinement. Voilà. C'est comme ça que ça se passe dans la rue, c'est pas face aux Français, c'est on apprend des choses lors d'un déplacement. Et puis on reviendra sur la campagne d'Europe Écologie Les Verts qui là aussi a fait énormément réagir, mais c'est la faute au community manager. Voilà. Continuons notre... Alors, vous aviez commencé, Jacques Myard, on évoquait évidemment ce qui s'est passé dans le cas de l'affaire Halimi, de la folie, de la difficulté à définir ce qu'est la folie. Enfin, c'est surtout les juges que vous critiquez, c'est ça?
Non, je ne critique pas les juges. Je dis que la prétention, et on entend sur les médias, les explications en disant « c'est la folie qui leur a fait connaître cet acte ». Je suis désolé, ils sont dans une autre psychologie, ils sont dans une autre Weltanschauung, et en réalité, ce que nous qualifions de folie est en réalité profondément une idéologie mortifère, islamiste, fanatique et qui tue à l'envi. Oui. Donc, il faut cesser de mettre ça sur le dos de la folie.
Mais
ce n'est pas vrai.
Mais les deux peuvent être compatibles.
Non, de votre point de vue, mais eux, ils ne sont pas véritablement dans la folie. Une vision qui n'est pas la nôtre. Ils sont dans une vision apocalyptique qui n'est plus celle de la rationalité. C'est la même chose dans une secte. Il y a un problème majeur. Il faut cesser de mettre ça sur le compte de la folie et regarder la réalité de l'islamisme en face.
Oui, mais excusez-moi, Jacques, je pense que c'est un cadre qui dépasse même l'islamisme. Toute personne qui en tue une autre le fait sous le coup de la folie, sauf les tueurs à gages. Évidemment, vous rigolez. La Première Guerre mondiale, on prenait justement de l'absinthe pour pouvoir tuer en étant délivré d'une conscience. Les guerres, les kamikazes au Japon, c'était la même chose. Donc, effectivement, dire que quelqu'un tue un autre, laissez-moi finir, Jacques. Dire que quelqu'un tue un autre sur le coup de la folie est un pléonasme énorme, selon moi, parce que c'est forcé. Personne ne tue naturellement. La barbarie à jeun, ça existe rarement.
Oui, mais les fous.
Première Guerre mondiale, il y avait la volonté des militaires, etc., d'en découdre.
Et ils étaient chargés de drogue et d'alcool pour faire ce qu'ils
ont
appris, évidemment.
Non, 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 ça c'est après. Vous mélangez tout.
Moi, ce que j'entends...
C'est faux. Il y a eu la volonté, effectivement, d'en découdre, et l'histoire de l'absinthe, etc., c'est venu après, compte tenu des souffrances. Mais venez pas me dire que ce qui a été la vérité et le déclenchement de la guerre, c'est que ces gens-là, à l'époque, avaient une vision qui n'est pas vôtre. Vous prenez les kamikazes japonais, c'est parce qu'ils sont...
Vous comprenez pas ce que je vous ai dit.
Vous êtes pas sur le sacrifice de
l'envie. C'est pas ce que je vous dis, Jacques. Je dis juste que dire que quelqu'un qui est fou parce qu'il a tué quelqu'un était un pléonasme, parce que la nature humaine rarement peut tuer quelqu'un sans être sous l'emprise de la folie, sauf les tueurs à gages. Voilà.
Attendez, Jean-Claude, bonjour.
Je comprends les deux points de vue, je vais vous dire pourquoi. Parce que, effectivement, tuer n'est pas... tuer comme cela, ça n'est pas quelque chose de naturel. On tuait de sang-froid, on se dit, faut y aller, hein. On voyait Fourniret prendre un cadavre, le déplacer, c'est épouvantable. Dans le même temps, le problème que pose Jacques, et on l'entend aujourd'hui, c'est que nos concitoyens, nous-mêmes, chacun de nous, demandent comment lutter, comment mettre en place un nouvel arsenal pour pouvoir lutter contre des gens qui n'ont aucunement les mêmes valeurs que nous. Et leur obsession, c'est de nous tuer. Donc, face à cela, on ne peut pas. Si on se dit simplement, eh bien, ils ont agi sur le coup de folie, sur la folie, ils se paieront un peu de nous parce qu'ils se diront comme ça, on peut même un peu en jouer. Et donc, la question, c'est quelle attitude avoir à l'égard de ces gens qui ne rêvent que d'une chose. Et je parle d'extrémistes, je parle de gens qui sont, vous voyez, ces types un peu pas très bien, ils sont fous, qui ne cherchent qu'une chose. Nous sommes des mécréants, nous sommes des
Est-ce qu'il y a quand même une différence entre les frères Kouachi et d'autres individus
qui sont
des psychotiques schizophrènes qui ont des maladies mentales? Je veux dire, il y a quand même
Valérie, bien sûr, je ne suis pas expert et vous avez un grand expert en psychiatre, le docteur Baudon, qui a beaucoup écrit là-dessus. Et effectivement, il y a des gens qui sont dérangés, un mauvais mot est trop petit, qui ça dépasse tout entendement.
Alors François Monboise.
Moi, je suis plutôt d'accord avec Jacques, là. C'est-à-dire que c'est trop facile d'avoir l'excuse de la folie. Et je crois que la dernière guerre mondiale...
Parce que j'ai dit, Ouais. C'est pas du tout ce que j'ai
alors
dit.
Alors attendez, laissez-le bah, terminer.
Dit que pendant la guerre de 14, tout le monde
connaît de l'absinthe. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on ne pouvait pas plaider la folie dans un cas comme ça, parce que forcément, on devait être dingue pour pouvoir faire des choses pareilles. C'est pas la même chose.
Je dis que non. Je dis que non. C'est contre ça que je m'insurge. Je relisais Hannah Arendt, le procès Eichmann. Hein. Tous les nazis, c'était des gens normaux qui ont chacun fait une petite chose. Sinon, il y avait, je ne sais pas combien de millions de fous en Allemagne.
Il y avait évidemment
des gens totalement ordinaires. Regardez Shoah.
Non mais je connais par cœur, je suis même très touché par ça, je suis désolé, je peux vous dire le contraire. Je peux vous dire que les nazis également avaient un lavage de cerveau, prenaient des produits pour faire ça, ça a été prouvé également, donc c'est pas ni blanc ni noir, c'est le milieu.
Revenons, ce que enfin, la folie existe, la folie existe aussi, la pulsion, ce qui a été la bouffée délirante existe.
Ce genre attire des gens un peu dérangés, c'est évident. Les gens qui sont prêts à faire ça sont attirés par
le cas des nazis, ils étaient vraiment...
Mais ça n'excuse en rien ce qu'il a fait. Attendez, ça n'excuse, tout ça n'excuse en rien. Je pense que le débat n'est pas sur l'excuse. Le débat est comment mettre en place, parce que là encore, nous sommes dans un état de droit et c'est cela qu'il faut expliquer à nos concitoyens. À partir du moment où, dans notre corpus pénal, vous avez un mécanisme qui dit qu'à tel degré, psychiatriquement de folie, la personne n'est pas justiciable dans les conditions normales, ça c'est le corpus existant. Le vrai sujet, est-ce qu'on considère qu'il faut le changer ou pas. Mais tant qu'on ne le change pas, malheureusement...
C'est pas le corpus existant, c'est pas vrai. Il y a un article dans le Figaro ce matin qui dit que dans une affaire similaire, au contraire, la chambre criminelle a dit que c'était une circonstance aggravante d'avoir pris du cannabis.
Sauf que lisez dans Marianne l'interview du docteur Bensoussan, qui est un des experts qui a conclu à la bouffée délirante. Il explique qu'il y avait très peu de cannabis dans le sang de cet homme, de l'agresseur, au moment des faits. Il n'était pas sous emprise du cannabis à ce moment-là.
En réalité, Valérie,
juste
une proposition sur la table. Je crois que dans tous les cas d'espèce, il faut qu'il y ait procès. Et ce n'est qu'après le procès qu'on puisse déclarer, effectivement, il était irresponsable.
Bien sûr.
Donc, c'est bien ce que vous dites, Jacques, c'est bien ce que vous dites.
C'est ça, il faut inverser l'ordre des facteurs. Et ce qu'on peut reprocher aujourd'hui, c'est qu'on a un jugement d'expert. C'est insuffisant. Les victimes, la transparence du procès, parce qu'un procès pénal est toujours normalement au vu et au su de tout le monde, même s'il n'est pas toujours filmé. Donc, il faut qu'il y ait procès. Et c'est à la suite de ce procès qu'on peut déclarer l'irresponsabilité.
C'est pour cette raison que j'ai dit qu'il faut changer le corpus juridique. Et contrairement à ce qui vient d'être ce que vous avez dit, c'est que l'interprétation qui est donnée par la Cour de cassation, c'est une interprétation qui est donnée par la Cour de cassation. Et donc, ça veut dire que c'est à géométrie variable. Aujourd'hui, si on veut que les choses soient autrement, il faut changer la règle. Donc, c'est le sujet qui
Ça veut dire quoi ? Juger les fous alors que certains considèrent
Valérie, il faut poser... Le corps social dit halte là. Moi, je dis qu'il faut qu'il y ait débat et puis après, on tranche. C'est tout.
Et il n'a pas été reconnu comme fou. Encore une fois, il a été reconnu comme étant doté d'un moment de folie au moment où ça s'est passé. Et je dois rajouter les experts. J'ai lu également l'interview de l'expert. Moi, le problème, ce n'est pas les experts. Le problème, c'est la juge d'instruction qui, rappelons-le, a refusé de qualifier en tant que crime antisémite ce qui s'est passé pendant des mois. Elle refusait dans un premier temps. Elle a refusé une reconstitution également. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir les yeux uniquement sur les experts, parce que les experts, ils sont là pour... en fait, c'est leur spécialité. C'est plutôt la personne qui interprète ces résultats d'expertise qu'il faut regarder aujourd'hui. Et effectivement, c'est anormal.
Allez, moi j'avais un... Alors, là aussi, ça rejoint quelque part notre sujet, c'était... Bon, je pense que le mot de coup de gueule n'est pas adapté. C'est ce chauffard qui a percuté la voiture d'une famille à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, dans la nuit de samedi à dimanche. Deux morts, deux blessés graves. Une maman et son enfant ont été tués dans cet accident. Le père et l'autre enfant sont entre la vie et la mort. C'est une petite fille de 7 ans aujourd'hui qui est dans un état quasiment désespéré. Alors... L'homme qui a fait ça, délit de fuite, âgé de 27 ans, alors inconnu de la justice, sauf qu'il était sous l'emprise de l'alcool, des stupéfiants au moment des faits, mais déjà connu des services de police pour refus d'entempérer, conduite en état d'ivresse, usage de stupéfiants, plus de permis de conduire. Donc là aussi, ce sont des permis de tuer. C'est absolument scandaleux.
Le nombre de gens en France qui circulent sans permis est absolument délirant. Je crois que on est parmi les records des pays occidentaux. C'est parce qu'il n'y a pas de contrôle.
Vous savez, lorsqu'on disait force doit être être donnée à la loi. Dans un pays où on annoncera que la règle doit être claire, qu'elle doit être appliquée, et il faut que l'on se donne les moyens, ici ou là, de suivre l'exécution des décisions, qu'elles soient administratives ou judiciaires, l'exécution des décisions qui sont prononcées.
Ah ouais. Mais là, il n'a même pas été poursuivi. Visiblement, il était inconnu des services de police, mais pas de la justice. C'est pas parce qu'on est inconnu des services de police qu'on fait les choses correctement.
Je pense que ce qui vient de se passer est sidérant, sidérant de douleur pour cette famille.
Enfin, la vérité, c'est que ça rapporte plus d'argent à l'État de mettre des contraventions à des gens qui sont en double file pendant 10 minutes que de contrôler des gens qui sont susceptibles d'être des dangers publics.
Arrête, Mathieu.
Bah si.
Alors, François Monboise.
Oui, je crois que les gens qui roulent sans permis, il y en a effectivement énormément.
Bah oui.
Mais ça, c'est à cause des radars où les gens n'ont plus de points et ne veulent pas leur passer le permis. Le permis, ça coûte une fortune. Hein.
Bien sûr.
Et puis moi, mes enfants viennent de leur passer, je serais incapable de répondre aux questions qu'on leur pose sur combien de mètres il faut pour freiner à 60 à l'heure. Non, mais je rigole pas. C'est très, très dur. Donc les gens ne le repassent pas, ils roulent sans permis, ce qui est dramatique. Mais surtout sur l'affaire de ce chauffard qui était donc ivre, stupéfiant, est-ce que son avocat ne va pas plaider la perte temporaire de discernement? C'est ça qu'on voit là.
Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant pour parler de cette tribune des militaires. Faut-il des sanctions? On écoutera Nicolas Dupont-Aignan qui était ce matin sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
On est ensemble jusqu'à midi. Nous commentons l'actualité avec François Monboise, Jacques Myard, Jean-Claude Beaujour et Mathieu Alterman. Donc, cette tribune qui a été publiée par Valeurs Actuelles et signée par une vingtaine de généraux, une centaine de hauts gradés et plus d'un millier d'autres militaires appelle le président Emmanuel Macron à se défendre contre le patriotisme. Il dénonce un certain délitement qui frappe selon eux la patrie. Selon eux, il n'y a pas de T à selon. Ils disent que la France est en péril, qu'il faudrait protéger la France des hordes de l'islamisme, et des hordes de banlieue. Et il appelle les dirigeants français à trouver le courage nécessaire à l'éradication de ces dangers. Réaction de la ministre des Armées, Florence Parly, qui évidemment s'est insurgée contre cette tribune. Les militaires ont un devoir de réserve. Des sanctions sont prévues. J'ai demandé pour ceux qui seraient parmi les signataires des militaires qui serait toujours en activité d'appliquer des règles qui sont prévues. Bref, tout le monde a réagi, de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, qui a fait pas moins de 6 tweets ce matin pour réagir à cette tribune. Elle a mis un petit peu de temps à réagir. Florence Parly, est-ce qu'elle a eu bien fait de réagir, puisque du coup, tout le monde en parle. Mathieu Alterman, commençons avec vous.
Moi, j'ai pas vu de tribune de militaires, j'ai vu une tribune de militants. C'est pas la même chose. Ce sont pas des militaires lambda. Moi, il y a aucun souci si des militaires s'expriment avec le cœur, avec ce qu'ils pensent et ils disent ce qu'ils pensent. Pour moi, ça. Sauf que c'est pas le cas. Vous avez vu les gens qu'il y a dans la liste? Vous avez vu? Alors, vous avez Christian Picmal, hein, qui est radié, un des cadres de l'armée, qui faisait des expéditions à Calais anti-migrants. Vous avez des proches du Rassemblement National, hein, Emmanuel de Richouft. Vous avez. Donc, on sent que c'est totalement biaisé. Vous savez, c'est un peu comme quand vous lisez un magazine. Vous avez quelqu'un que vous aimez bien qui parle d'un produit. Vous voyez en tout petit publie information ou publie reportage. C'est une publicité déguisée. Donc moi, je ne suis désolé, ce n'est pas une tribune libre de militaires. C'est complètement orienté. Donc on peut comprendre un petit peu la réaction qu'elle a. Encore une fois, que des militaires disent ce qu'ils pensent, moi, ça ne me pose aucun problème. Mais là, ce n'est pas les militaires, c'est certains militaires. Ça se voit un peu.
Oui, Jacques Myard.
Moi, je suis quand même assez frappé de ce tohu-bohu.
Ouais.
Dites-moi un peu, là, où est-ce que j'ai une mauvaise mémoire? Qui est-ce qui a dit « on vit côte à côte et bientôt face à face » c'est pas un ancien ministre de l'Intérieur,
absolument, Colomb. Gérard Collomb.
Et donc, je suis quand même assez frappé. Alors, moi, je ne vais pas défendre ci ou ça, ils sont exprimés, dont acte, sont-ils militants ou pas militants, ce n'est pas mon problème. Mais en réalité, ce que les Français savent, c'est que malheureusement, je dis bien malheureusement, dans nos banlieues, nous avons des éléments qui sont extrêmement inquiétants. Et la preuve, c'est que même le président de la République s'est fendu d'une loi, paraît-il, sur le séparatisme, qui est un pis-aller vis-à-vis des causes réelles. Donc, je suis assez frappé que, véritablement, aujourd'hui, il y ait véritablement ce tohu-bohu et qu'on a complètement chanté, complètement oublié ce que M. Collomb lui-même disait, notamment dans la cour du ministère de l'Intérieur. Donc, il y a un moment, il faut ramener ça à des choses un peu plus, je dirais, objectives.
Oui. Alors, François Monboise.
Tout dépend si c'est des militaires d'actifs ou des militaires en retraite. Si c'est
des deuxièmes sections, oui.
Ils n'ont
oui.
pas le droit.
Oui. Hein,
ils n'ont pas le droit d'être des militants. Moi, je crois que qu'effectivement, ce n'est pas très grave, cette tribune.
Non.
Je pense qu'on lui donne beaucoup d'importance.
Oui,
ça fait un peu contre-feu, comme vous l'avez dit. Mais je pense que la ministre devait faire un point sur le devoir des réserves des ministères d'actifs. C'est son boulot de le faire. Elle devait absolument le faire. Et elle aurait pu le faire plus tôt, à mon avis. C'est pas la peine. Je pense pas qu'il y ait lieu à des poursuites, parce que des militaires de réserve ont parfaitement le droit de dire ce qu'ils veulent.
Mais il y a des militaires qui sont apparemment toujours en activité là-dessus. Ils n'ont pas le droit.
Ça, c'est pas acceptable.
Non,
quelqu'un rappelait ce matin qu'il y avait une tribune militaire entre les deux tours de l'élection de 2002. Pour rappeler à voter Chirac et pas Le Pen, et que Chevènement, qui était ministre, avait râlé avec raison en disant « vous n'avez pas le droit, les militaires ne doivent pas ».
Mais les militaires de réserve, ils peuvent... Non, ils sont, les militaires retraités signataires sont astreints à un devoir de réserve
C'est ce que j'allais dire. Il y a la dimension juridique et la dimension politique. Tout d'abord, sous la direction... La dimension juridique, les militaires de réserve sont astreints à un certain un devoir de réserve, c'est le cas de le dire. Donc je crains qu'ils ne soient visés, en tout cas je n'ai pas la liste précise, mais qu'un certain nombre d'entre eux soient visés. Ce qui me gêne, mais au-delà de la question juridique, parce qu'il va peut-être y avoir quelques sanctions, mais tout ça ne va pas aller très loin. Ce qui me gêne, et c'est ce que je défends, moi je défends l'état de droit sans réserve, sans limite. Le travail des militaires, c'est d'être dans leur caserne, au service à l'exécution des politiques. Parce que là, on a donné le sentiment, et je dis bien le sentiment, ils ne l'ont pas dit texto, on a donné le sentiment que un groupe important, c'est pas la même chose lorsqu'il y a un militaire qui fait un bouquin ou qui dit que, mais un groupe relativement conséquent de militaires, quasiment un millier de signataires, qui dit nous sommes des anciens militaires. Mais dans l'opinion publique, ça veut dire l'armée, pour monsieur tout le monde dans la rue, c'est les militaires.
Oui.
Or, il ne faut pas donner, là encore, si on veut que l'état de droit soit respecté partout, il faut que chacun soit dans son rôle. Si des hommes et des femmes qui se trouvent être militaires, qui ont une expérience, pensent qu'ils doivent s'engager politiquement pour faire changer les choses, ça ne me gêne pas qu'ils le fassent et qu'ils y aillent. Ils seront les bienvenus à apporter leur expérience. En revanche, l'armée doit être aux ordres du politique, il ne doit pas en être autrement. Enfin, et c'est en respectant... Attendez, Valérie, c'est important. Ouais. C'est en respectant ces règles-là qu'on peut, à côté, faire respecter toutes les autres règles. C'est ça, l'état de droit.
C'est une opération de communication très
bien menée.
On est
d'accord, mais c'est pour ça que
c'est ça, le problème.
Est-ce qu'on peut parler du fond? Mais moi, je suis d'accord sur le fond.
Et je vais vous redire pour terminer, je pense que ça peut être l'occasion pour nous, et nous en avons déjà débattu ici, pour dire comment refondons-nous le pacte social, parce qu'effectivement il y a un risque d'explosion. Comment remettons-nous la citoyenneté au cœur de notre action et comment on décline nos politiques publiques? Comment on exprime l'état de droit? Comment on fait renaître le sentiment de fierté nationale?
Qui on appelle en général? À chaque fois on dit on va appeler l'armée quand il y a des problèmes. Il y a eu des sénatrices à Marseille qui ont demandé ça. Absolument, mais même Ségolène Royal a demandé à ce qu'on fasse appel à l'armée.
Et on a l'impression que c'est le dernier recours au chaos. Pour moi, c'est une tempête dans un verre d'eau. L'armée est parfaitement républicaine.
Oui, bien sûr, je suis d'accord.
Parfaitement, je dirais, aux ordres du pouvoir civil, sédante, armée, toguée. On le sait tous.
Je suis d'accord.
Mais je vais vous dire, si vous relisez, parce que moi, j'ai été extrêmement étonné, alors je suis allé chercher la tribune, et à un moment, ils écrivent, il ne peut pas et ne doit exister aucune ville, aucun quartier où les lois de la République ne s'appliquent pas.
Mais je suis d'accord.
Alors, qui est-ce qui va dire le contraire?
Mais oui, mais Jacques, justement...
Moi, je suis sidéré de cette tempête dans un verre d'eau.
Ce sont des lapalissades. Tout le monde est d'accord avec ce qu'il y a à l'intérieur, parce que voilà, bon. Sauf que sur la forme, c'est interdit. Et en fait, tout est pensé pour ça.
Leur but, c'est qu'on dise aujourd'hui, regardez,
on veut nous faire taire. On veut nous faire taire alors qu'on dit la vérité. C'est ce qu'ils veulent qu'on dise. Et c'est réussi.
C'est pas ce qu'ils veulent, c'est ce que fait la
Mais parce que légalement, c'est interdit.
Oui.
Il y a la loi.
Moi, je suis sur le fond. Sur le fond, moi, je suis complètement d'accord. Et on est tous un certain nombre bien à sûr. Être des militants. On aime notre pays et la question. Et c'est pour cela que j'ai dit, ça peut donner le sentiment. Je vous ai bien dit, ça peut donner le sentiment que c'est l'armée qui s'exprime. Parce que Monsieur Tout le Monde, vous faites la différence. Non, non, mais Jacques, nous faisons la différence entre des militaires qui s'expriment, des militaires en retraite qui s'expriment à titre individuel et l'armée, le ministère de la Défense.
Les magistrats qui s'expriment. Qu'est-ce que tu en dis, Jean-Claude?
Ah ben j'aurais dit la même chose. C'est pour ça que je dis que c'est un sentiment. C'est la masse et c'est le sentiment. Après, on est bien d'accord, tout ça n'ira pas très loin, je viens de le dire, même juridiquement. Ça n'ira pas très loin. C'est plutôt le combat qu'il nous faut mener parce que là, en revanche, il y a urgence. Effectivement, les territoires perdus de la République, il faut les récupérer. Oui. Et c'est ça qui est important.
Alors, petite précision, André Bercoff a reçu vendredi, ce trois jours avant Valeurs Actuelles, l'un des signataires de cette lettre sur l'antenne de Sud Radio. Donc, il y avait... nous étions à la pointe de l'information
bravo.
Avec André qui...
C'est le partenaire média, c'est ça
voilà. Non, pas du tout, mais c'est vrai qu'André avait parlé de cette lettre ouverte et a reçu l'auteur de la lettre.
Ce qui me gêne vraiment dans l'histoire, c'est qu'on puisse dire, regardez, ils veulent dire la vérité, on veut les faire taire, alors que c'est un peu plus compliqué que ça.
Mais est-ce qu'en termes de com', le gouvernement n'aurait pas dû s'y prendre directement?
Mais des vivants.
Vous savez, c'est toujours un peu la même chose. Peut-être que s'il n'avait rien fait, vous savez, c'est dit. Enfin, bon, peu importe. Ouais. Moi, je pense que le plus important, c'est quand même le débat de fond et ce que nous faisons pour le pacte social à reconstruire.
Et Jean-Claude, je voudrais redire, lorsque vous avez des magistrats qui prennent position très ouvertement contre le gouvernement et un certain nombre de positions, Dixit par exemple, le mur des cons. Eh ben, je peux vous dire que c'est aussi grave, sinon davantage.
Je partage tout à fait votre position sur ce point. C'est la raison pour laquelle je dis état de droit sans réserve. La loi s'applique à tous. Et c'est à ce prix-là qu'on va ramener un peu de tranquillité, un peu de règles dans notre pays.
Allez, on se retrouve dans un tout petit instant. On va parler déconfinement et 6000 personnes qui sont aujourd'hui en réanimation. Comment va se passer ce déconfinement? À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour débattre et commenter l'actualité, Emmanuel Macron devrait expliquer aux Français au plus tard le 5 mai, c'est quand le 5 mai? C'est mardi, mercredi prochain, les détails du plan de déconfinement. Le chef de l'État devrait plutôt détailler aux Français les conditions de réouverture des terrasses, des lieux de culture. Hier, il était en visite dans une école de Seine-et-Marne et il a commencé à donner quelques pistes après la levée des 10 km autour du domicile qui est prévu le 3 mai. Trois phases de réouverture progressive, mi-mai les terrasses, les lieux de culture, une partie des commerces. Début juin, les restaurants en intérieur dans les zones les moins touchées. Mi-juin, les restaurants en intérieur dans les autres zones. Donc, je ne sais pas pourquoi il parle, pourquoi il s'exprime à la télévision, puisque quand il est en sortie scolaire, il donne toutes les informations. Jacques Myard, paradoxe, il y a de la com' et puis il y a la situation du pays quand même.
Oui, non, mais attendez, moi, je ne vais pas faire procès au gouvernement, je dirais, des impondérables de cette pandémie. Ça, c'est évident. Mais il est non moins clair que le président de la République, aujourd'hui, est en campagne électorale, il en rajoute, il est, je dirais, entraîné par son pathos viscéral, et c'est ça qui est vraiment problématique. Maintenant, on verra comment... La faute qu'ils ont faite au gouvernement, c'est de fixer le 15 mai. Et là, c'est une sorte de... Tout le monde pense que le 15 mai est fini, quoi. On va pouvoir danser dans la rue et faire tout ce qu'on veut. Or, les faits sont plus têtus que les annonces de M. Jupiter. Et donc, il faut de ce côté-là garder raison. Maintenant, on va y aller progressivement, c'est évident, parce qu'on ne peut pas faire autrement et il faudra continuer à respecter les gestes barrières. Voilà, maintenant, qu'il soit en campagne électorale, c'est son problème.
Oui. François Monboise.
C'est pas facile, ce que fait le gouvernement. D'ailleurs, l'opposition a beaucoup de critiques, mais il n'y a pas beaucoup de critiques constructives de faire autre chose. Je pense que la priorité qu'il donne aux écoles est bien. Parce que sinon c'est dramatique s'il y a des années scolaires qui sont perdues. Je veux dire, concrètement, qu'est-ce qu'on fait des enfants qui ont apprentissage pas fait à la fin de l'année, c'est dramatique. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est pour ça que la date du 15 mai était peut-être un peu optimiste, c'est que ça ne baisse pas du tout les gens dans les réanimations, le nombre de morts. On est maintenant à 250 morts par jour de manière régulière avec des hôpitaux pleins en étant confinés. Donc, si on lâche, le risque, c'est que ça augmente. Et quand vous écoutez les médecins, ils sont assez inquiets parce que les hôpitaux sont pleins. Ouais. Donc, il faut y aller tout doucement, je pense.
Hein, vraiment tout doucement. Oui, mais les mesures, enfin, pardon, la communication aujourd'hui tente à aller vers un relâchement.
Parce qu'il y a deux crises, alors, en fait. Il y a la crise sanitaire avec des chiffres alarmants et on espère qu'effectivement la vaccination va s'accélérer, ce qui a l'air d'être le cas. Et puis, il y a quand même une crise économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement, il regarde les caisses et il se dit le souci, c'est qu'on a mis sous perfusion énormément de domaines, des indépendants, les restants, et ils n'ont plus. Ils ne veulent plus, ils n'ont plus de liquidité. Ils ne veulent plus donner ce qu'ils donnent depuis près d'un an maintenant. Et pour cela, ils vont faire un déconfinement progressif et diminuer les aides en échange. Je pense qu'il y a vraiment cet aspect économique qu'on ne peut pas oublier. Hein.
Oui, sur votre question, est-ce qu'il faut déconfiner avec prudence ? J'ai envie de vous répondre tout de go, oui, avec très, très, très grande prudence. Là, je reçois un message d'un jeune médecin dans le sud de la France qui me dit, attention, on est à 6 000 et avec un taux de mortalité importante, on manque de personnel qualifié parce qu'on peut avoir un peu de logistique et dire, il faut quelques lits, on fait quelques lits, mais il faut du personnel, le personnel est épuisé. Donc, oui, je pense que déconfinement, et c'est peut-être là où il faut qu'il y ait un vrai message de la part du gouvernement, parce que nous sommes au début de l'été. On a passé un hiver épouvantable. Depuis octobre quasiment, on est sous cloche. Il faut arriver à discipliner, à organiser, à faire pédagogie pour pouvoir ces mesures barrières, comment on s'organise, comment l'été va se passer, pour éviter effectivement que ça ne flambe et qu'en septembre qu'on nous dise il faut remettre, refermer, re-ci ou re-ça. Je pense que là, il y a peut-être...
J'allais vous dire, moi, je suis pessimiste quand je vois la fête qu'il y a eu ce week-end au Buttes-Chaumont avec des jeunes et que personne n'a été arrêté. J'ai peur.
Là-dessus, mais c'est pour cela que je dis que le vrai sujet à la réponse de Valérie Expert, est-ce qu'il faut déconfiner avec prudence ? La réponse, c'est comment on organise. Continuer à marteler et surtout la vaccination enfoncée sur ce voilà
et des sanctions envers ceux qui ne respectent pas et j'ai peur que les sanctions soient pas là moi ça me fait peur.
Non mais François, le problème est juste une chose très rapide, j'ai toujours pensé que effectivement les contraintes la marmite est en train de bouillir et la cocotte minute. Or, dans une cocotte minute, il y a une soupape, donc il faut savoir organiser je dirais des moments où, en respectant davantage les mesures, on puisse, donner un certain espace. Cet espace existe aujourd'hui puisqu'on est déconfiné dehors. Lorsque je vois sur les pelouses de la ville de Maisons-Laffitte des petits groupes de 2, 3 qui sont sur les pelouses, ça, c'est effectivement une soupape. Maintenant, ce qui s'est passé au Ménilmontant, là, ils ont poussé la soupape un peu loin, ça c'est clair. Et il n'y a pas eu de sanction derrière parce qu'on ne peut pas arrêter 200 à 300 personnes comme ça.
François Monboise.
Oui, c'est pas facile. Hein.
C'est compliqué. C'est
surtout qu'il va commencer à faire de plus en plus beau et effectivement, la cocotte commence à bouillir. Quoi. Les moins de 30 ans, moi j'ai des enfants de 25 ans, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus.
Mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est vrai que dans la cohérence...
Il faut ouvrir, comme ils l'ont dit, les terrasses, donner des objectifs...
Mais les terrasses, la problématique des terrasses, et je lisais ce matin dans Le Parisien l'interview d'un restaurateur dans le 6e arrondissement de Paris, peu importe, qui a une terrasse où il y a 6 tables. Donc c'est pas intéressant, c'est pas rentable
c'est mieux
pour
que
eux.
Rien.
Mais non, c'est pas mieux que rien pour eux, ils ne vont pas ouvrir. Ils ne vont pas ouvrir parce que...
Je garantis qu'il y en a beaucoup qui ouvriront.
Il y en a qui ouvriront, mais ils vont aussi réfléchir avant d'ouvrir s'ils n'ont que le service du midi et qu'ils n'ont que 6 tables.
La seule réponse, c'est la vaccination. La vaccination.
Tout fermé, à tout ouvert.
Oui, mais toute la difficulté, c'est que pour encourager les gens à se faire vacciner, il faut qu'ils aient quelques libertés à partir du moment où ils le sont vaccinés. S'ils ne peuvent rien faire alors qu'ils sont vaccinés, vous n'allez pas accélérer le mouvement de vaccination volontaire.
C'est un peu la quadrature du cercle, en effet.
Oui, donc c'est mais il y a un paradoxe de communication de se dire il y a 6 000 cas aujourd'hui et finalement on prend des décisions qui sont à l'inverse de celles qui ont été prises alors qu'on avait pas.
La seule faute, c'est d'avoir annoncé le 15 mai.
Bah oui.
Le 15 mai devient l'oméga qu'il faut atteindre alors même que on sait très bien que plus c'est comme l'horizon, plus on va avancer, plus l'horizon risque de fuir.
Ceci dit, Jacques, il faudrait quand même dire une chose que le gouvernement avait prévue, c'est qu'ils avaient annoncé que le pic serait bien fin avril. C'est-à-dire qu'ils n'ont, ils n'ont jamais dit que ce ne serait pas là. Et je pense qu'ils tablent sur une baisse des contaminations parce qu'il y a le vaccin qui est
accéléré depuis un mois et demi. C'est malheureusement pas le cas. Et en réalité, c'est un pic qui dure.
C'est la raison pour laquelle il faut, si on veut ne pas retomber dans les mêmes effets pervers de l'automne, il faut aujourd'hui, me semble-t-il, à côté de la campagne de vaccination, à côté des mesures qui sont prises, véritablement rappeler les mesures barrières, les organiser, mettre là... J'imagine qu'ici ou là, on peut malgré tout identifier les lieux où il peut y avoir beaucoup de gens. On peut anticiper sur certaines dates, parce que, par exemple, ce qui s'est passé à Nice avec ce carnaval, on pouvait un peu l'anticiper. Bref, il y a des mesures comme cela à prendre et je pense que c'est là où on doit mettre le paquet en termes de communication.
Mais ce qui est incompréhensible pour les Français, et c'est un des messages qu'avait Éric Vérac, alors on s'est un peu disputé sur un certain nombre de choses, mais c'est vrai que les Français ont du mal à comprendre. On leur dit la vaccination, c'est l'alpha et l'oméga, ce qui est en tout cas certes les choses, sauf qu'on ne voit pas le nombre de cas baisser et on ne voit pas la contamination baisser.
Parce qu'on est encore très loin. La fameuse immunité collective, on n'est pas près de l'avoir.
Absolument. Deux choses, immunité collective. Toutes choses étant égales par ailleurs, un certain nombre de médecins l'évaluent aux alentours de septembre-octobre, l'immunité collective. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sans être médecin, je crois avoir compris qu'il n'a jamais été dit que le vaccin à lui seul supprimerait le virus. Le vaccin va permettre de limiter considérablement la contagion. Pour autant, nous allons devoir continuer avec ces mesures barrières, continuer avec le télétravail tant qu'on peut en faire, limiter nos déplacements jusqu'à probablement encore 6 mois, voire 1 an.
Retard à l'allumage ne sera malheureusement pas rattrapé facilement.
Absolument, ça on est d'accord.
Et autre question, je vois plusieurs messages sur Twitter qui disent plus de 224 000 créneaux de vaccination sont ouverts dans certains centres en France, comme le Stade de France. Pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas la vaccination à tout le monde ? Il y a des créneaux totalement possible.
Alors attention,
possible.
Parce que le problème, c'est que vous savez, l'AstraZeneca, pour les aussi n'est pas conseillé pour des gens de certains âges.
Mais là, c'est du Pfizer.
Oui, il faut qu'il ouvre à tout le monde. Et surtout, alors moi, pour ma part, je suis pour rendre le vaccin obligatoire dans certains corps de métier. Il est quand même totalement absurde que les soignants ne doivent pas obligatoirement se faire vacciner. Il est absurde que les gens qui travaillent dans les compagnies aériennes qui voyagent ne doivent pas obligatoirement se faire vacciner. Je pense que là, il va falloir
légiférer. Il ne faut pas obliger les gens, attention, à se faire vacciner.
Et pourquoi pas ? Vous voyez, c'était le sujet de la démocratie. Où est-ce qu'on va ?
Il le deviendra obligatoire, un peu comme les fameux vaccins de la fièvre jaune. Si vous n'avez pas le vaccin de la fièvre jaune pour entrer dans un certain nombre de pays, vous ne pouvez pas y aller.
Voilà.
Ça se fera de cette manière.
Exactement.
François Monboise.
Il va de facto être obligatoire, parce que vous avez entendu hier que la Commission européenne a expliqué que les citoyens américains vaccinés pourraient venir cet été.
Ouais.
Pour qu'on sache qu'ils sont vaccinés, ils auront bien un passeport vaccinal.
Ouais. Absolument.
Donc on nous dit que le passeport sera facultatif. En fait, de facto, il va bien être...
Oui, il deviendra obligatoire si vous voulez bouger, voyager, et
les îles grecques, j'ai entendu, font la même chose. Pour attirer les touristes, les îles grecques disent, chez nous, il faut tout le personnel des îles sera vacciné. Ils ont vacciné en priorité les îles, il paraît, les Grecs. Et on voudra des gens vaccinés pour rassurer les touristes. Donc je pense qu'on va aller vers une montée en puissance de ça. Mais si ça peut encourager tout le monde à se faire vacciner, c'est très bien.
Ouais.
Parce qu'on ne s'en sortira pas sinon.
Moi, je pense que c'est un message d'espoir. Il faut terminer sur un message d'espoir comme ça. Moi, je ne suis pas si pessimiste que ça. Je pense qu'effectivement, la vaccination s'accélère fortement depuis un mois. Et que le gouvernement, je ne suis pas pro-gouvernement, mais je pense que le gouvernement a tablé là-dessus. Il dit, de toute façon, on augmente.
Il y a un moment où on va redescendre dans la cuve.
Voilà, c'est tout.
Écoutez, on verra. On va marquer une pause. On se retrouve dans un instant. On va parler des verts, de la campagne de communication qui a là aussi fait beaucoup, beaucoup réagir. On se retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
On est ensemble jusqu'à midi aujourd'hui avec Mathieu Alterman, François Monboise, Jacques Myard et notre ami Jean-Claude Beaujour. Et donc nous parlons de cette campagne Europe Écologie Les Verts versus les Boomers. Le message n'aura tenu que 2 jours. Julien Bayou s'est excusé après la diffusion d'une campagne en vue des régionales sur les réseaux sociaux. Les Boomers, eux, ont prévu d'aller voter. Alors les Boomers, ce sont ceux qui sont... qui sont ceux qui sont... alors, on parle en même temps dans l'oreillette, donc c'est un petit peu compliqué. Les boomers, ce sont ceux qui sont nés dans les années
45, 60.
Donc, on va parler de cette campagne. Mais juste avant, on avait une auditrice que j'ai oubliée, pardon, Chantal, qui voulait réagir sur la vaccination.
Oh, oui.
Pardon, Chantal. Mais,
non, c'est rien, Valérie, merci. Non, moi, c'est quand vous avez dit « Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Alors, moi, je veux dire, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on fournit les instituteurs puissent aller travailler en plus serein. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on fournit des vaccins aussi, et à tout le monde, au monde entier, donc en les laissant pas au labo. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on organise la vie dehors de façon à être moins nombreux au même endroit, donc ça au niveau travail, au niveau restaurant, etc. Mais qu'on nous fiche la paix, qu'on nous considère comme des gens responsables, et on... moi, ça fait, je vois 2 personnes par semaine, donc du coup, je mets personne en danger. Mais ça suffit, quoi, maintenant, parce que c'est du n'importe quoi. Les gens ne peuvent plus vivre comme ça. C'est pas possible. Ni les restaurateurs, ni personne. Personne ne peut vivre comme ça. C'est complètement idiot et c'est malsain.
Oui, voilà. Et donc, vous habitez dans une grande ville ou dans une...
Non, j'habite à la campagne, mais du coup, je ne sors pas beaucoup. Je ne peux même plus faire partie des associations auxquelles je faisais, parce qu'elles ont toutes arrêtées. Les fêtes sont toutes arrêtées. Donc, c'est pas possible de vivre comme ça plus longtemps qu'un an, c'est pas vrai. Oui. Donc, il faut effectivement faire autrement. Et l'économie, elle peut tourner, on est responsable, on peut faire attention.
Bon, ah, c'est bien d'avoir l'optimisme dans la nature humaine.
Ben oui, mais Chantal,
bravo, enfin, madame.
On est responsable.
Oui, mais madame,
vous êtes responsable, mais quand vous voyez ce qui s'est passé au bout du chemin.
Vous habitez dans une zone rurale avec une faible densité de population.
Le
problème, c'est que ça n'a rien à voir dans les villes. C'est tout le problème est là.
D'aller chanter, nous on veut continuer à danser encore, hein, je me le mets sur internet deux fois par jour, hein, pour résister, parce que on ne risque pas tant que ça, et surtout il faut prendre les mesures pour nous rassurer, c'est-à-dire ne pas arrêter les lits d'hôpitaux quand même, c'est quand même aberrant de continuer à détruire l'hôpital alors qu'on le disait déjà avant et que maintenant c'est toujours pas fait, c'est quand même aberrant tout ça, de laisser des enseignants aller travailler sans avoir les tests, sans avoir les masques, tout ça c'est aberrant. Ouais. Et tout ça pourquoi ? Parce que Monsieur Macron n'a pas demandé aux entreprises françaises de faire ce qu'il fallait. Or, on avait des entreprises françaises pour faire tout ça.
Elles y ont participé. Elles ont participé.
Pas assez quand même. Sinon, on aurait des vaccins, on aurait des tests, on aurait tout ce qu'il faut.
Oui. Enfin, ils ont essayé. Ouais. Ils ont essayé aussi.
Mais madame
n'a
pas tort. Il y a énormément de start-up qui a demandé de l'argent, et c'est pas les Français qui l'ont donné l'argent.
Voilà. Non, absolument. Voilà. Sur le vaccin Moderna. Je vois un médecin d'ailleurs à l'instant, et je voulais le dire, ça c'est pour ceux qui hésitent, il dit c'est incroyable le nombre de patients qui refusent le Moderna, qui repartent non vaccinés. On a tellement parlé du Pfizer qu'ils ne veulent plus que ça. Or le Moderna, il est construit de la même manière que le Pfizer, a priori.
C'est le iPhone du vaccin, en fait. C'est devenu, on veut le iPhone, mais
voilà,
pas le machin
c'est ça.
À côté.
Voilà, ouais. Parlons des verts, donc ces visuels qui pointaient du doigt les chasseurs qui ad nominem ont cité Zemmour, Finkielkraut, Darmanin. Les chasseurs, eux, ont prévu d'aller voter. Finkielkraut, lui, a prévu d'aller voter. Une campagne qui a évidemment beaucoup fait réagir. Le communicateur Arnaud Champremier Trigano s'est défendu, lui, sur le timing de la campagne. Il a dit que c'était le community manager qui avait tout sorti en même temps, donc que ça avait brouillé le message. Mais enfin, s'attaquer directement à des gens, c'est quand même pour le moins douteux.
Ça s'appelle se prendre les pieds dans le tapis.
Oui, mais même la campagne en elle-même, elle est quand même pour le moins étonnante.
Le fond du problème, avec ta permission, Valérie,
allez-y.
Le fond du problème, sont que les mesures que M. Hollande, M. Macron ont prises contre les aides à la natalité et les allocations familiales aux classes moyennes, on le paye aujourd'hui par une baisse de la natalité française. Et ça, c'est, je dirais, redoutable. Mais c'est la même chose. Parce qu'on montre du doigt les vieux, mais il y a, chaque génération doit se renouveler. Or, il y a eu des mesures antinatalistes, anti-classe moyenne, prises par le gouvernement Hollande et par M. Macron qui font qu'aujourd'hui, on est là. Et bien sûr, les Verts tonitruent sur ce thème à l'égard des vieux. Non, et c'est bon, scandaleux.
On va oui. retourner plus sur, ouais. sur le sujet. Je pense qu'il y a une... C'est une catastrophe.
C'est
y a
le même sujet.
Non, mais il y a un sondage BVA qui était intéressant, qui est paru la semaine dernière, qui, en gros, les conclusions montraient que tous les partis qui se sont radicalisés, finalement, font la promo de ce qu'il y a sur leur droite. Ça ne marche pas du tout, en plus, parce qu'ils paraissent... Tout ce qui est excessif est insignifiant, ouais. et on est vraiment là-dedans. Plusieurs choses sur les boomers, oui, complètement idiots, vraiment, ouais. là, qui avait pu avoir une idée pareille. Finkielkraut, rappelons Finkielkraut, a voté à gauche toute sa vie. Ouais. Pour rappeler quand même, pourquoi s'en prendre à Finkielkraut, qui pour le coup, il n'est même pas à droite, il n'est même pas sur la droite républicaine, il a toujours été socialiste. Pourquoi s'en prendre à lui, on ne sait pas.
Zemmour.
Non, mais enfin, ces gens-là, je pense
mais,
que.
Mais ils partent sur le principe aussi du fait que les jeunes doivent aller voter parce qu'ils voteraient vert. Or, il y a eu un sondage récent qui disait que les 18-24 ans votent Emmanuel Macron, 34% pour Marine Le Pen, donc
je pense que c'est on assiste là vous voyez les Verts qui disent souvent qu'ils veulent faire de la politique autrement, qu'ils sont pas politicards, etc. C'est du racolage politique, ni plus ni moins. C'est l'occasion de faire une campagne en direction des très jeunes. Et effectivement, voyez finalement tous ces gens qui viennent vous dire on est contre la discrimination, les principes républicains, l'égalité, etc. Au premier obstacle, ils versent dans de la discrimination. C'est-à-dire que là, on a très nettement les vieux contre les jeunes, avec de la stigmatisation. Vous savez, deux personnes du même âge ont des profils, des histoires, des comportements différents. Moi, je ne connais que des êtres humains. Je ne connais pas des sexes, je ne connais pas des tranches d'âge, je ne connais pas des couleurs de peau. C'est comme cela qu'il faut regarder et on voit bien la difficulté.
Jean-Claude, on est d'accord.
Alors, je voudrais que François Monboise...
Non, je trouve qu'il n'y a rien qui va dans cette campagne. Il y a les boomers, les chasseurs, et puis quand même, Zemmour, Finkielkraut, comme a dit Isabelle Saporta, il manque plus que Cohen. Ouais. Hein. Il y a un clin d'œil qui est très malsain. Et puis à la fin, l'excuse, entre guillemets, d'avoir dit j'ai pas validé, donc c'est un sous-fifre qui a fait ça, c'est scandaleux.
Alors il s'est excusé, Julien Bayou, il a dit.
Oui, il l'a posté lui-même. Oh, oui. Il y a des tweets de lui qui montrent le visuel. Alors
vous allez regarder les documents. Non, mais puis attendez, c'est pas la première bourde de Julien Bayou. Souvenons-nous de ce qu'il a dit la semaine dernière sur l'affaire Sarah Halimi, où il a dit que je comprends qu'effectivement les juifs peuvent être choqués, mais il faut pas se venger pour autant. Enfin, c'est quand même toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est ridicule. Et il faudra analyser quand même ce qui se passe chez les Verts depuis un an, parce que c'est le Titanic en ralenti. Mais c'est complètement fou.
Mais qu'est-ce que vous découvrez là? Vous découvrez que ce sont des idéologues trotskistes. C'est l'histoire de la pastèque. Et ils sont complètement à côté de leur pompe. Mais je le redis, le point fondamental où il faut aller plus loin, c'est la question de la relance de la natalité française.
Mais c'est un autre sujet.
Je n'en démords pas.
Mais non, c'est un autre
sujet.
C'est
pas un autre sujet, tout est lié. Ouais. On accuse les vieux. Mais parce qu'on a oublié qu'il fallait à un moment renouveler les générations.
Oui, mais les générations qui sont là, elles votent pas vert. Elles votent pas vert. J'entends votre message, mais
voilà. et le problème, c'est qu'on a affaire à des idéologues qui sont mortifères et qui se prennent les pieds dans le tapis à longueur de temps.
Ils sont pas bons. Alors Finkielkraut, c'est parce que c'est l'ennemi de Greta Thunberg. En fait, c'est l'argument qui a été donné.
C'est un peu pathétique. Ouais,
il est quand même d'une hauteur intellectuelle, je dirais suffisante pour être honoré et respecté.
Oui, François, vous vouliez réagir encore à
ça. Non, sur Finkielkraut, oui, parce qu'il y a des gaffes, entre guillemets, des maires écolos qui ont fait rire sur le Tour de France, etc. Il y a des choses qui font moins rire, hein, le refus de la mairie de Strasbourg de signer la définition de l'antisémitisme. C'est pas terrible, le refus du groupe écolo à Paris de faire une rue Samuel Paty au motif qu'il était décédé depuis moins de 6 mois ou je ne sais quoi, enfin, ce qui n'est pas bien. Il y a des espèces de clins d'œil qui ne sont pas bien. Je rappelle que les écolos n'étaient pas au rassemblement dimanche au Trocadéro. Ouais. Il y avait en gros tous les partis politiques sauf deux, les insoumis et les écolos.
C'est pire que
matin,
ça.
Je ne sais pas si vous avez entendu Bayou qui était à France Info. On lui demande pourquoi vous n'y étiez pas. Il a bredouillé dimanche, je suis en famille.
Non, mais c'est pire que ça.
C'est Béliard.
C'est pire que ça. Il n'était pas.
C'est Bayou.
Il n'était pas non plus au rassemblement à Lyon, alors que le maire est vert. Ils ne sont pas allés. Donc il y a, bon, il y a
à Strasbourg à la remise de gerbes du CRIF pour la première fois, il y avait personne de la
mairie. Mais au final, ce sera 6%.
Mais au-delà de ça, c'est il y a cet aspect-là, mais il y a quand même ce sectarisme, je ne sais pas qui l'évoquait.
Mais moi, je l'ai dit, vous savez,
Jean-Claude Vaujour.
Je peux vous dire que sous des airs, nous sommes tous frères. Il y a une forme de d'exclusion. En fait, ce sont des gens qui très souvent n'acceptent pas. Tout d'abord, ils n'acceptent pas les idées modérées. On est dans de la radicalisation. Ils n'acceptent pas, c'est contrairement à ce qu'ils disent, un certain nombre de différences. Vous voyez, moi, je suis frappé de voir. On est tous d'accord sur la politique de développement durable, etc. Là, on vous dit, voilà, on va commencer à pointer le doigt sur tous ceux qui voyagent en avion. Mais attendez, je ne vais pas traverser l'Atlantique à la nage. Alors, Greta Thunberg, je veux bien, mais elle a un bateau qui l'emmène, et puis il y a des équipages qui viennent récupérer le bateau. Il faut. C'est cette transition qui, pour eux, doit être brutale, doit être sauvage, et il n'y a pas de place pour l'argument ou la différence ou la nuance. Vous savez, ces gens-là ne connaissent pas l'art de la nuance.
Mais parce qu'ils sont convaincus d'être moralement au-dessus de nous. Si manger des haricots verts à la place d'un steak frites leur donnait d'un seul coup une aura.
Alors, vous aussi, vous caricaturez.
Mais je caricature. Attendez, vous rigolez. Vous avez eu énormément d'égéries vegan et écolo. Il y a eu un scandale sur une qui a mangé du poulet sur Instagram, qui s'est fait traiter de tous les noms parce qu'elle avait une maladie, elle devait manger du poulet. Elle a été grillée, terminée. Plus personne ne voulait entendre parler dans le mouvement. C'est une secte.
Jacques a raison. Oui, vous avez affaire effectivement à un mouvement sectaire, c'est-à-dire
le mot secte est pas dénué de connotation.
Désolé, on a affaire à des gens qui détiennent la vérité et qui veulent vous l'asséner par force.
Et rajoutons, les Verts allemands sont impeccables. Pas du tout sur la même lignée. Très bien.
Alors, cette question qui revient régulièrement, est-ce qu'on a les verts les plus bêtes
On a les verts les plus rouges du monde. Pas.
Moi, je pense que ce qui nous tue aujourd'hui, c'est l'absence de nuance. C'est l'absence de nuance. Nous sommes dans des clivages forts et chacun se croit obligé d'être dans le clivage maximum pour pouvoir exister. Sauf que c'est cela aussi qui fait exploser nos sociétés. Vous disiez que j'étais vice-président de France-Amérique, j'ai eu l'occasion de dire, ce qui fait exploser la société américaine, c'est précisément cela. Et c'est ce terrain-là que je vois malheureusement, nous prenons cette pente où il faut être dans le clivage maximum pour pouvoir exister. Et ça, c'est ça qui va nous
emmener. C'est bien le sujet américain.
François Monboise.
Et les réseaux sociaux l'augmentent complètement, parce que si vous voulez percer sur les réseaux sociaux, c'est avec de l'indignation, avec de l'outrance, etc. Vous ne pouvez pas d'ailleurs dire que vous mettez de côté un article, vous êtes obligé de dire que vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas. C'est-à-dire qu'on vous oblige à prendre parti. La nuance, je suis tout à fait d'accord. Il y a un excellent livre de Birnbaum,
Absolument, que je conseille.
Des livres, exactement, qui est très bien là-dessus.
Enfin, il y a aussi un fond. Ou l'écologie.
Il faut savoir ne pas répondre sur les réseaux sociaux.
Non, mais sur l'écologie.
Mais si vous cherchez à être populaire sur les réseaux sociaux, c'est pas en disant du bien des gens, souvent, c'est en disant du mal.
Mais sur les résultats de l'écologie, ce qui marche dans le monde, on parlait tout à l'heure des États-Unis, je rappelle toujours que San Francisco est la ville la plus verte au monde, mais dans un cadre libéral. Et c'est ce que n'ont pas compris les écologistes en France, c'est qu'on peut faire du vert à condition que les gens comprennent qu'on puisse faire de l'argent sur du vert.
Mais sur la com de cette campagne, elle est incompréhensible. L'agressivité.
Il y a l'image des candidats.
Oui, l'agressivité qui.
C'est le meilleur allié d'Emmanuel Macron. Cette campagne. Évidemment, ça va lui faire prendre des points, évidemment.
Bon, alors, un petit point, sinon congé parentalité. Grégory Doucet, le maire de Lyon, avait prévu de prendre un congé parental de 11 jours. Finalement, ce sera un petit peu moins long. Il voulait.
Mais on s'en fout, il fait ce qu'il veut. Mais...
Non, mais ça montre que c'est pas facile, parce que si même lui qui avait annoncé qu'il allait le faire ne le fait pas,
absolument.
Ça montre que c'est pas si simple de prendre 8 jours quand on est maire de la deuxième ville de France.
Absolument. Merci à tous les quatre pour ces débats. Dans un instant, André Berkoff, très bonne journée.